Il existe beaucoup de livres qui parlent de l'au-delà, de l'enfer et surtout du royaume de Dieu, ainsi que des films qui décrivent ces lieux en images. Que ce soit des écrivains ou des metteurs en scène, la plupart d'entre eux ne cachent pas que leur réalisation est une fiction. Par contre, il en est d'autres qui prétendent nous informer sur ce qui nous attend de l'autre côté. Les livres, les films et les émissions qui ont pour thème l'au-delà semblent toujours être basés sur des expériences vécues ou sur une tradition, ce qui ne sont pas des sources d'informations fiables. Par contre, les Écritures nous donnent des renseignements sûrs, même si elles ne satisfont pas toute ma curiosité et ne répondent pas à toutes mes questions. En tout cas, c'est du solide et aucun livre n'est aussi révélateur de l'au-delà que l'Apocalypse. Je finis de lire le chapitre 4. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adore celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Versets 10 et 11. Nous sommes dans le premier oratorio de louange et d'adoration qui rend gloire à Dieu parce qu'il est le créateur de tout ce qui existe. Non seulement les 24 anciens se prosternent devant Dieu, mais ils jettent également leur couronne devant son trône. Ils ne se soucient pas d'eux-mêmes, de leur honneur, de leur récompense. Toutes ces valeurs, si chères aux hommes, ont perdu leur attrait et leur sens devant la majesté de Dieu. Certains croyants vont bien recevoir une couronne pour service rendu au Seigneur, pour leur consécration et leur endurance face à l'adversité. Dans un premier temps, ils l'accepteront avec joie et reconnaissance, mais je pense aussi qu'ils se sentiront rapidement embarrassés parce que le seul être digne de porter une couronne est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jean voit les 24 anciens représentants de l'Église déposer leur couronne devant le trône céleste. Les quatre êtres vivants ont commencé à rendre gloire à Dieu pour ses attributs, pour qui il est. Les anciens, les vieillards, ont ajouté leur propre note à ce cantique et adorent Dieu en disant « Tu es digne en tant que créateur ». Le mot pour « digne » était adressé à l'empereur romain lorsqu'il prenait part à un cortège triomphal. Ici, Dieu est digne de recevoir gloire, honneur et puissance parce qu'il est l'auteur de tout ce qui existe. Il faut remarquer que c'est Dieu qui est honoré, loué et glorifié. Il s'agit de Dieu le Père ou du Dieu en trois personnes. Dans d'autres passages des Écritures, c'est Dieu le Fils qui est reconnu comme l'auteur de la création. Mais peu importe que ce soit le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, car de toute façon, chaque fois que l'une des personnes de la Trinité agit, les autres sont impliquées. De notre point de vue, elles semblent interchangeables, même si dans la réalité divine, ce n'est pas le cas. L'oratorio de louange des habitants du ciel et la déclaration de la dignité de Dieu sert de préambule au châtiment que le Seigneur ne va pas tarder à infliger au monde dans le but de juger Satan, les démons et les hommes impies, afin de reprendre possession de sa création et de la donner aux croyants. Ces derniers, en effet, en sont les héritiers légitimes parce qu'ils ont été adoptés par Dieu et ont reçu le statut légal de fils de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul écrit que cette révélation des fils de Dieu, que la création attend avec un ardent désir, car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous arrivons maintenant au chapitre 5 de l'Apocalypse, ce qui veut dire que les événements de la fin des temps sont sur le point de se déclencher. Tout au long de l'histoire, l'humanité n'a pas manqué de conquérants qui ont voulu occuper le trône de ce monde. Le premier et le plus puissant de ces usurpateurs est Satan. Après son coup d'état manqué contre Dieu, il est devenu le Dieu de ce monde, et en tant que tel, il a incité de nombreux hommes à tenter de se rendre maître du monde. La liste est longue et n'est pas terminée. Le dernier à prétendre à ce poste sera l'Antichrist, mais comme tous ses prédécesseurs, il échouera, car un seul a le droit, le pouvoir et l'autorité de régner sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ. Il reprendra un jour à Satan l'usurpateur, ce qui lui appartient. Personne d'autre n'est digne ou capable de faire régner la justice en ce monde. C'est lui qui est au centre de la vision du ciel que Jean reçoit. Les événements du chapitre 5 font directement suite à ceux du chapitre 4. L'apôtre Jean est toujours devant le trône de Dieu, entouré des quatre êtres vivants et des 24 anciens qui représentent l'Église enlevée et glorifiée. Je commence à lire ce chapitre 5. « Alors, je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux. » Verset 1. Le mot traduit par « livre » a donné « Bible » en français. Mais il ne correspond pas du tout à ce qu'on appelle un livre aujourd'hui. C'est plutôt un parchemin en papyrus ou en peau tannée qu'on roulait à partir des extrémités jusqu'en son milieu. Qu'il soit écrit recto verso n'a rien d'extraordinaire, car dans l'Antiquité, les supports d'écriture étaient particulièrement onéreux. On ne gaspillait pas la place. Les fouilles archéologiques ont mis à jour bon nombre de documents rédigés recto verso. Sur le parchemin que voit Jean, sont apposés 7 sceaux qui doivent être brisés un à un pour pouvoir le dérouler. Il y en a 7 parce que dans l'Apocalypse, le nombre 7, que ce soit en chiffres ou en événements consécutifs, est très fréquent. D'autre part, ce chiffre 7 revient aussi dans les lois romaines. Un testament, du moins celui des gens importants, devait être scellé 7 fois. Et on sait qu'il en fut ainsi pour les dernières volontés des empereurs César Auguste et Vespasien. De plus, à partir du règne de Néron, les transactions entre individus, comme lors d'un mariage, d'une location, d'une libération d'esclaves, d'un emprunt ou d'un paiement de dette, étaient écrites à l'intérieur d'un rouleau qui était ensuite scellé 7 fois. Puis à l'extérieur, on écrivait les grandes lignes du contrat. En Israël, le titre de propriété d'un bien était à peu près conçu de la même manière, ce que nous révèle le prophète Jérémie quand l'Éternel lui demanda d'acheter un champ pour montrer que l'occupation de Juda par les Babyloniens ne serait pas permanente. Je lis le passage. « J'achetais donc à mon cousin Anaméel le champ, et je lui en payais le prix de 17 pièces d'argent. Je rédigeais l'acte de vente, j'y mis mon sceau en présence des témoins que j'avais convoqués, puis je pesais l'argent sur une balance. Ensuite, je pris l'acte de vente qui était scellé, où figuraient les stipulations et les clauses de la transaction, ainsi que l'exemplaire qui était ouvert. Ce rouleau que voit Jean aiguise notre curiosité et on se demande ce qui peut bien être écrit dessus. Étant donné que Dieu va juger le monde, certains pensent qu'il contient le plan de Dieu. Effectivement, les différentes phases du jugement vont se réaliser au fur et à mesure que les sceaux sont brisés. Cependant, au regard des prophéties de Daniel, ce rouleau est d'abord le titre de propriété du monde. Daniel écrit « Je regardais encore dans mes visions nocturnes. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours. » Et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté, la gloire et la royauté. Et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leur hommage. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Le titre de propriété de ce monde appartient de droit à Jésus-Christ, et cela 2 fois. Parce que d'une part, il est le créateur de l'univers et d'autre part, il est le rédempteur de la race humaine. Cela dit, il est tout à fait possible que ce rouleau contienne également la liste des châtiments qui vont frapper la terre, au moyen desquels le Seigneur va reprendre son héritage. En effet, il semble que le prophète Ézéchiel l'ait vu lui aussi, car il écrit « Je regardais, et je vis une main tendue vers moi qui tenait un livre en forme de rouleau. Elle le déroula devant moi. » Il était couvert d'inscriptions au recto et au verso. C'étaient des plaintes, des lamentations et des cris de malheur. Maintenant qu'on croit savoir tout ce qui est écrit sur ce rouleau, il faut aussi dire que la vision de Jean ne nous révèle jamais son contenu. Car même après la rupture du septième sceau, on ne sait toujours pas exactement ce qui est écrit. L'important n'est pas le contenu du rouleau, mais son rapport avec Jésus, l'agneau égorgé. La vision souligne en effet que lui seul est digne et possède l'autorité nécessaire pour ouvrir les sceaux et exécuter les jugements. Ce rouleau est symbolique, mais comme les trônes, il a existé pendant le temps de la vision. Je continue le texte. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? Verset 2. C'est la première fois qu'on entend une voix forte, mais cela se reproduira encore 19 fois. Cet ange n'est pas nommé, mais il est puissant car sa voix porte sa proclamation jusqu'aux extrémités de l'univers. Il est à la recherche de quelqu'un qui est à la fois digne, capable et a le droit de rompre les sceaux du livre et donc de l'ouvrir. Il demande « Qui a le pouvoir de triompher de Satan et de ses hordes démoniaques et de lever la malédiction qui frappe la terre ?» Je continue. « Mais personne, ni au ciel ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre ni de le lire. » Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Versets 3 et 4. Alors que l'écho de la voix forte de l'ange s'estompe, un silence lourd s'installe. Personne n'a répondu à l'appel, ni un ange ni un homme juste parmi les saints. Si aucun être dans l'univers n'a le pouvoir et le droit d'ouvrir le livre, l'avenir éternel de l'humanité est compromis. La tension dramatique du moment accable profondément l'apôtre Jean, qui, assez curieusement, est désemparé et fond en larmes. Cependant, bien qu'il soit dans le royaume de Dieu, Jean est encore un homme ordinaire. Un auteur chrétien explique à sa façon la signification des larmes de Jean. Il écrit « Les larmes de Jean représentent les larmes de tout le peuple de Dieu versées au fil des siècles. Ces larmes sont celles qu'Adam et Ève ont versées lorsqu'ils ont été chassés du jardin d'Éden, quand ils se sont penchés sur la toute première tombe, arrosant le sol poussiéreux de leurs larmes en regardant le corps silencieux et immobile de leur fils Abel. » Ce sont les larmes des enfants d'Israël en esclavage lorsqu'ils ont crié à Dieu leur affliction d'être asservis. Ce sont les larmes que les élus de Dieu ont versées au fil des siècles en implorant les cieux. Ce sont les sanglots et les larmes qui ont été arrachés au cœur et à l'âme des enfants de Dieu lorsqu'ils regardent leur mort, qui sont entrés dans le royaume du silence, quand ils se tiennent devant leurs tombes ouvertes, lorsqu'ils subissent les épreuves et les souffrances de la vie, des douleurs et des déceptions indescriptibles. Voilà la malédiction que le péché a attirée sur la magnifique création de Dieu. Et c'est le moment de la condamnation de la main de celui qui retient la création captive, cet usurpateur, cet intrus, cet étranger, ce dragon, ce serpent, ce Satan, ce malin. Fin de citation. Si Jean pleure abondamment, c'est parce qu'on ne semble pas trouver un rédempteur pour racheter le genre humain. Les conséquences seraient alors des plus dramatiques, car cette terre maudite leur resterait éternellement. La mort et le péché, la malédiction et la damnation régneraient à jamais, et la souveraineté de ce monde resterait pour toujours entre les mains du diable. Jean pleure parce qu'il veut voir le monde débarrassé du mal, du péché et de la mort. Il souhaite voir Satan vaincu et le royaume de Dieu établi sur terre. Il veut voir Israël sauvé et Christ exalté. Ce que Jean est en train de vivre peut être apparenté au rêve, mais en ce moment c'est plutôt un cauchemar. Il ne contrôle pas la vision ou ses émotions. Il vit l'instant, ce qui veut dire qu'il a oublié autant les tragédies qu'il a vécues que les paroles rassurantes de Jésus qu'il a pourtant consignées dans son évangile. Jean ne se rappelle plus que le Messie a été exécuté, que Jérusalem a été détruite, que le peuple juif a été massacré et dispersé, que l'Église fait face à la haine et la persécution et qu'elle est infestée par le péché. Il a oublié que le Messie a vaincu la mort, qu'il est ressuscité et qu'il a fait d'innombrables promesses qui reposent sur la fidélité de Dieu. Je continue le texte. Alors, l'un des vieillards me dit « Ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Verset 5. L'un des 24 anciens ou vieillards intervient et dirige l'attention de Jean vers le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David. Il s'agit évidemment du Seigneur Jésus-Christ. Le lion de la tribu de Juda est l'un des titres du Messie. Quand, avant de mourir, le patriarche Jacob a béni ses fils, il a dit « Oui, Juda est un jeune lion, mon fils. Tu reviens de la chasse et tu t'es accroupi et couché comme un lion, comme une lionne. Qui te ferait lever ? Le sceptre ne s'écartera pas de Juda. » Et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds jusqu'à la venue de celui auquel il appartient et à qui tous les peuples rendront obéissance. À l'époque de Jésus, les Juifs attendent un Messie tout-puissant qui les délivrera de la main pesante des Romains, leurs oppresseurs. Le Seigneur était prêt à leur offrir le royaume, mais ils devaient d'abord se repentir et l'accepter, lui, comme roi. Ils ont refusé, et comme Jésus ne satisfaisait pas leurs attentes politiques, ils l'ont rejeté et fait périr. Alors, après sa mort et sa résurrection, Jésus a remplacé Israël par l'Église, qui est le nouveau peuple de Dieu et un royaume spirituel. Cependant, le Messie est toujours un lion, et il déchirera ses ennemis le jour qu'il a lui-même choisi, et qui répond à son propre planning, et non pas à celui des hommes. Deuxièmement, dans ce passage, Jésus est appelé le rejeton de la racine de David, un autre titre messianique qu'on trouve dans le livre d'Ésaïe. Il écrit « Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit ». Il adviendra en ce jour-là que le descendant d'Isaïe, l'ancêtre de David, se dressera comme un étendard pour les peuples et toutes les nations se tourneront vers lui, et le lieu où il se tiendra resplendira de gloire. Fin de citation. Selon les généalogies que nous donnent Matthieu et Luc, Jésus descendait de David à la fois par sa mère et son père adoptif. Il est donc bien de la postérité de David selon la chair, comme l'écrit d'ailleurs l'apôtre Paul. Jésus est digne de prendre le rouleau en raison de ce qu'il est, de qui il est, le roi légitime issu de David, le lion de la tribu de Juda. Jésus est également habilité à ouvrir le livre à cause de ce qu'il a fait, de la victoire qu'il a remportée sur la croix. Par son sacrifice, il a triomphé du péché, de la mort et de toutes les forces du mal. Il est ainsi devenu le rédempteur des hommes, mais aussi de la terre et de toute la création. Celui qui est digne a entendu la voix forte de l'ange et il arrive pour reprendre ce qui lui revient de droit. Mais Jean est soudainement interloqué, tandis qu'il contemple la scène incroyable qui se déroule devant ses yeux, le reflet radieux et éclatant de la gloire de Dieu émanant du trône, l'arc-en-ciel d'un vert brillant qui l'entoure, la dalle de cristal scintillante sur laquelle il repose, les éclairs et la foudre, l'adoration des quatre êtres vivants et des 24 anciens. Son attention est attirée par ce qu'il voit au milieu du trône. Au lieu d'y trouver le puissant lion de la tribu de Juda, le roi héritier de David, qui est le maître de tout, Jean y voit un agneau. Il écrit « Alors, je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il s'agit de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. »